autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver au taquet, chers amis auditeurs, pour rattraper le temps perdu dans l'absolu tout en restant d'équerre et en faisant même des étincelles sans commettre d'impair, histoire de faire le vide et même la lumière, pour résoudre peut-être la quadrature du cercle tout en développant nos atomes crochus. Vous trouvez que je cherche midi à 14h et vous n'avez pas tort, car ce sont toutes ces drôles d'expressions, 150 drôles d'expressions pour ramener sa science, qui sont rassemblées pour la première fois dans un étonnant petit dictionnaire du Robert, dont nous avons d'ailleurs, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous offrir, coécrit par une fine équipe de linguistes en étroite collaboration avec notre invité, le philosophe et physicien Étienne Klein, qui n'aime rien tant que jouer avec les mots pour ramener sa science la plus pointue sur le temps, le vide ou l'apesanteur à destination du plus grand nombre. Mais est-il possible de faire passer la science en mots et les mots de la science ? Jusqu'où la nature a-t-elle horreur du vide ? Et pourquoi tout est relatif ? Autour de la question comment passer la langue au microscope, bienvenue avec tous les accents du monde, mais sur la même longueur d'onde.
Travailler en binôme.
Avoir des atomes crochus avec quelqu'un.
Promettre la lune.
Tirer des plans sur la comète.
Très très poétique, je ne connaissais pas toutes ces expressions.
Être dans l'œil du cyclone.
Passer au scanner.
Inverser la courbe.
Marcher au radar.
Un électron libre.
Être d'équerre.
C'est la quadrature du cercle.
Petit mix d'équerre, signé Hugo Violas, quelques-unes de ces 150 expressions pour ramener sa science avec les voix de RFI. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour à vous et à tout le monde.
Merci d'être en direct avec nous et avec les mots pour le dire, pour partager votre science en la ramenant un peu quand même. Allusion au titre de cet ouvrage, coécrit par une équipe d'éminents linguistes et que vous nous présentez aujourd'hui, Étienne Klein, qui vient de paraître aux éditions Robert. Précisons que le physicien et philosophe des sciences que vous êtes, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, a le goût des mots et le goût du vrai. Ça, c'était le titre d'un autre de vos ouvrages. Vous aimez, Étienne Klein, jouer avec les mots, avec les expressions, même si vous déplorez aussi que la science soit difficile à faire passer en mots, justement. Alors, est-ce que des expressions aussi imagées que des atomes crochus, la quadrature du cercle, où tout est relatif, peuvent un peu nous aider à faire le pont entre les deux ou à mieux comprendre ?
Oui, parce que la langue ordinaire ne dit pas spontanément la science. Donc la science, elle est importée. Elle l'a été à partir de la Renaissance. Avant, on parlait latin. La science se disait en latin. Et puis le français, à peu à peu, y compris le français scientifique, il est apparu dans le langage ordinaire avec des expressions qui parfois disent la science, parfois sont un peu datées. On a oublié ce qu'elles signifient vraiment. Puis d'autres fois, c'est quasiment une sorte de trahison de la science. Donc il faut être vigilant et comprendre l'histoire de la langue, la croiser avec l'histoire de la science pour voir comment on peut dire la science dans une langue qui ne la dit pas spontanément.
Et qui ne la dit pas spontanément parce qu'elle est de moins en moins intuitive, tout de même la science. On va y revenir. Hein. Vous êtes physicien, Étienne Klein, mais vous aimez particulièrement les anagrammes. On se souvient peut-être de vos anagrammes renversantes, vraiment renversantes, que vous inventez, si j'ose dire, avec votre compère Jacques Périssalco. Pourquoi ça dégage un sens, là aussi ? Parce que là, vous tournez toujours les phrases et les mots, et il en sort un sens.
Mais les anagrammes, c'est tout simplement l'équivalent pour les lettres d'une réaction chimique pour les atomes.
Ah.
Ben oui, quand vous avez des atomes, vous les désignez en général par des lettres. Les atomes s'associent ensemble pour faire des molécules. Eh bien, les atomes sont aux molécules ce que les lettres sont aux mots. Et une réaction chimique, c'est une réaction qui fait que les molécules de départ, qui sont présentes au départ, deviennent d'autres molécules. Ben, l'anagramme, c'est la même chose. Les lettres qui sont dans des mots au départ se retrouvent dans d'autres mots à la fin.
Comme quoi on peut faire de la science pour faire des anagrammes. Et vous avez parlé d'atomes, évidemment, Étienne Klein. Alors, des atomes crochus, c'est juste ça comme expression ? Ou pas, ils sont crochus, les atomes ?
Les premiers atomistes, les Grecs, ont inventé le concept d'atomes, donc d'objets insécables. Mais il fallait qu'ils expliquent comment les atomes pouvaient s'associer, faire des entités plus grandes qu'eux-mêmes, faire des corps. Et pour ça, il fallait imaginer, certains l'ont fait en tout cas, qu'il y avait des petits crochets qui permettaient aux atomes de s'associer. Et en fait, au XXe siècle, grâce à une meilleure compréhension de ce qui se passe au niveau des atomes, grâce à ce qu'on appelle la physique quantique, on a pu comprendre la nature et l'origine des liaisons chimiques.
Donc, qui ne sont pas vraiment des crochets.
Ça ne se fait pas avec des petits crochets, mais on comprend leur association. Et puis d'un point de vue métaphorique, avoir des atomes crochus, ça veut dire être connecté, attiré, relié à quelqu'un.
Et donc ça, ça marche, ça, ça fonctionne. Alors ce dictionnaire, c'est aussi une manière parfois de nous remettre les points sur les i, avec allez, une expression qui n'est peut-être pas dedans d'ailleurs, je ne sais pas, mais qu'on entend beaucoup et il faudrait bien remettre les points sur les i là-dessus, c'est l'exponentiel. Tout est exponentiel aujourd'hui, mais sauf
que
je ne comprends pas bien ce que ça veut dire.
Oui, ne soit pas dans le dictionnaire, parce que c'est un mot qui est devenu un mot de la langue courante à cause de la pandémie. On parle d'une tendance, par exemple, quand on parle des cas positifs, la courbe menace de devenir exponentielle.
Voilà.
Et puis,
ça n'a aucun sens hein, quand on dit ça.
J'ai entendu dire aussi que l'exponentiel allait bientôt atteindre son point d'inflexion. Donc, dans le langage commun, exponentiel, c'est devenu synonyme d'une fonction qui croît très rapidement et dont les valeurs sont déjà très élevées. Alors qu'en réalité, l'exponentiel, au début, ça croît tout doucement.
C'est bien pour ça qu'on ne la voit pas venir.
Voilà, mais elle n'en est pas moins une exponentielle. Même quand la croissance est lente au début, c'est déjà une exponentielle et c'est pour ça qu'il faut faire attention, prendre des mesures, parce que sinon l'exponentielle va se montrer d'une façon beaucoup plus spectaculaire.
Ce qui veut dire que nos politiques ont intérêt à être linguistes et scientifiques.
Mais pas que nos politiques, pourquoi seulement tout le monde, puisque le mot est courant et chacun l'emploie à sa façon. Et moi je regrette que quand on introduit comme ça un mot avec beaucoup de force dans l'actualité, on n'en profite pas pour faire un peu de pédagogie.
Histoire des sciences, histoire des langues, autour de la question pourquoi et comment passer la langue justement en microscope. Je propose Étienne Klein d'écouter l'éclairage d'une des linguistes avec lesquelles vous avez travaillé pour ces 150 expressions pour ramener sa science. Alors toutes et tous ces linguistes sont médiévistes, hein, comme Laetitia Tabar, elle est maîtresse de conférences en langue et littérature médiévale à l'université du Mans. C'est notre reporter Marjorie Bertin qui l'a joint par téléphone, sans commettre d'impair, on l'espère, pour lui demander d'abord en quoi cette spécialité en langue médiévale permettait, sans y perdre son latin, justement, de décortiquer le sens et l'origine, l'alpha et l'oméga de toutes ces expressions.
Ça permet de comprendre en fait comment on va passer d'un mot latin, souvent très savant, qui est à l'origine du mot français, et puis de comprendre comment on en est arrivé, par exemple, du mot impar, qui veut dire impair en mathématiques, à l'idée que faire un impair, c'est commettre une grosse maladresse.
Justement, Laetitia Tabar, comment est-ce qu'on est passé d'impair à impair?
C'est un des exemples que j'ai eu à traiter, que je trouve amusant, parce que c'est comme si les mots avaient une double vie. Ils sont d'abord très respectables en langage savant et mathématique, et puis en fait, ils vont s'acclimater dans la langue en passant par des espaces beaucoup moins codifiés, et notamment, là, c'est le monde des jeux. Donc, le pair impair était un jeu, et donc, faire un impair, c'était commettre une sorte de faute dans le jeu qui faisait qu'on était maladroit. Très souvent, en fait, on voit que les mots de la science vont traverser d'autres univers pour arriver dans la langue parlée. Le jargon des métiers, par exemple, les techniques est très productif. Donner du fil à retordre, par exemple, ça va être le jargon des ateliers de filature. Vous voyez, c'est plutôt comme ça qu'on arrive à les saisir. Et on travaille beaucoup avec les dictionnaires, justement, anciens, qui répertorient des exemples, notamment le dictionnaire Furtière au XVIIe, qui nous montre qu'il y avait tel emploi dans tel métier particulier. Et c'est comme ça que le mot se transforme.
Parmi les expressions que vous avez eues à traiter, Laetitia Tabar, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement amusée, ou au contraire, qui a été particulièrement difficile?
Alors, qui était difficile, alors que vraiment, ça paye pas de mine, hein, c'est être d'équerre. Ça veut dire, dans la définition stricte, être en bonne forme, voyez, être bien. L'origine, elle est claire, c'est l'instrument de mesure, l'équerre, hein, qui sert à vérifier la perpendicularité. Donc, ça vient vraiment d'un outil de la géométrie qui est très ancien. Mais le transfert, finalement, se fait par le monde, là encore, des métiers, des géomètres, etc. C'est plutôt vers le 17e que ça change. L'idée de mettre d'équerre, de remettre d'équerre un cadre, par exemple, ça va correspondre à l'idée d'une sorte d'exigence de rigueur, bien droit, bien carré. Mais en fait, ben, j'ai dû interroger beaucoup de gens, j'ai dû trouver un peu des exemples d'emploi, parce que moi, je n'avais pas du tout cette sensation. En fait, le problème, souvent, c'est les expressions récentes, comme être à l'ouest aussi, ce sont des expressions où chacun y a vu des choses différentes. Par exemple, dans le sud, au contraire, être d'équerre, c'était plutôt être ivre, être très fatigué après une très mauvaise soirée. Donc le contraire, parce que cette forme quand même un peu quadrangulaire et quand même pas très très naturelle. On voit bien que être droit, être perpendiculaire au sol, voilà, c'est être en forme, être impeccable, être carré. Mais finalement, l'image est tellement variable selon la perception qu'on en a qu'il y a des sens un peu secondaires.
Et est-ce que vous auriez une autre expression, par exemple, qui vous a amusé, sur laquelle vous pourriez nous raconter une anecdote?
Ça m'a amusé de travailler aussi sur parler sans filtre, qui semble un peu une expression assez récente. Le filtre, au départ, c'est vraiment un outil presque de l'alchimie pour la purification de la matière. Et puis finalement, on en arrive à appliquer le terme au traitement de l'image photographique, de ce qu'on appelle les filtres maintenant sur les réseaux sociaux, les filtres Instagram, les filtres photographiques. Et finalement, ça renvoie à ce vieux monde alchimique pour essayer de faire une création.
Quand l'alchimie s'invite sans filtre jusque dans notre langage, nos sociétés numériques, Étienne Klein, vous voulez réagir au propos de la linguiste Laetitia Tabar, interrogée par Marjorie Bertin?
Oui, alors j'aime bien l'expression qu'elle utilisait, à savoir que les mots, enfin les expressions ont une double vie. Mm-hmm. Il y a les mots dans les contextes scientifiques qui percolent dans la langue et parfois diffusent dans des sens qui sont très très différents. Très éloigné du sens scientifique. Et puis il y a des cas aussi, il y a un cas que quelqu'un a cité en début d'émission, inverser la courbe.
Inverser la courbe.
On a l'impression que c'est un terme scientifique. En fait, pas du tout. Moi, j'ai fait pas mal de mathématiques et jamais j'ai entendu de professeur ou de mathématicien dire...
N'inverse pas la courbe.
Non, en fait, c'est une expression politique qui a été inventée sous le quinquennat de François Hollande pour désigner l'inversion de la courbe du chômage. C'est une invention. Parce que mathématiquement, ça ne veut rien dire. Une courbe, c'est une courbe. Alors on pourrait dire inverser la courbe, c'est inverser la fonction correspondant à cette courbe. Donc par exemple, vous appelez f de t le nombre de chômeurs à l'instant t. Inverser la courbe, ça veut dire remplacer f de t par son inverse, c'était 1 sur f de t. Donc vous avez 3 millions de chômeurs et vous les ramenez à 1,3 millionième de chômeurs. Donc vous
prenez
le dernier chômeur et vous le coupez en rondelles. C'est évidemment pas ça que ça veut dire.
Et oui, comme quoi on peut faire des inventions. Tiens, arrêtons-nous, je ne sais pas, la force d'inertie, ça vous dit quelque chose, ça ?
La force d'inertie, c'est une longue histoire, parce que le principe d'inertie qui a été énoncé au XVIIe siècle par Galilée, c'est l'idée qu'en fait, un corps a un mouvement qui perdure indéfiniment si aucune force ne s'applique à ce corps. Et donc c'est l'inertie qui fait que son mouvement continue, se fait à vitesse constante, à vitesse uniforme. Et l'inertie, ça mesure en fait la difficulté qu'il y a à mettre en mouvement un corps. C'est plus difficile de pousser une armoire normande qu'un tabouret, par exemple.
Oui, là je suis.
Et la force d'inertie, ça a été une longue histoire dans l'élaboration de la mécanique, parce que ce principe d'inertie, il est assez contre-intuitif. Puisque lorsque vous faites du vélo, par exemple, si vous cessez de pédaler, assez rapidement, votre vélo s'arrête. Donc, ce que vous dit votre expérience quotidienne, c'est que pour qu'un mouvement ait lieu, il faut exercer une force sur le corps qui est en déplacement. Ça, c'est ce que disait Aristote. Pour qu'un corps soit mu, il faut qu'il soit mu par quelque chose, par une force. Et ce qu'on voit, nous, c'est que quand la force s'arrête, effectivement, le mouvement s'arrête. Et Galilée a eu l'idée géniale d'invoquer l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas, ce qu'on appelle un mouvement inertiel, pour expliquer l'amortissement des mouvements que nous observons.
Voilà comment s'intéresser à ces expressions peut permettre de faire de la science. Alors vous, évidemment, les mots qui vous parlent, qui vous intéressent, il y a le temps. On va y revenir, on va le garder un peu sous le coude. Le temps, il y a le vide aussi, évidemment. Alors il y en a plein, hein, de la diagonale du vide jusqu'au vide absolu. Faire le vide, est-ce qu'on peut faire le vide, Étienne Klein ?
C'est bizarre l'expression faire le vide, parce que le verbe faire, c'est un verbe d'action.
Bah oui.
Donc il faut faire quelque chose. Et puis ce qu'il y a à faire, c'est le vide. C'est-à-dire, dans un premier temps, l'équivalent du néant. Donc il faut faire quelque chose, mais ce quelque chose est rien. Donc vous commencez l'action, et comme elle porte sur justement ne rien faire, vous devez l'interrompre. Donc c'est une expression qui est une espèce de dynamique contradictoire. Elle pousse à l'action, et aussitôt qu'elle est amorcée, cette action, il faut l'interrompre. Et faire le vide, évidemment, c'est une expression de la langue courante qui signifie finalement ne plus penser à rien. Mais c'est très difficile parce que penser le rien, ça n'est jamais penser à rien. Dès que vous essayez d'imaginer le néant, que vous le vouliez ou non, vous en faites quelque chose que le néant en tant que tel ne peut pas être. Vous lui attribuez une dimensionnalité, une matérialité, une substantialité que par définition le néant ne peut pas posséder. Donc ces expressions ont un sens qui paraît parfaitement clair, mais quand on s'arrête sur les mots, on est pris de vertige.
C'est le physicien et le philosophe qui parle, Étienne Klein, autour de la question pourquoi et comment mettre la langue, notre langue, nos langues, au microscope, en votre compagnie et sur la bonne longueur d'onde. On écoute les yeux de la tête. Et oui, c'est leur nom, le nom de ce groupe qui interprète en français dans le texte « I don't speak English ».
J'aurais bien aimé passer à la télé en chantant de la pop et du rock. Faire des high feel, des walking down the street et que les filles se jettent à mes bottes. Oui, mais voilà, moi je suis qu'un pauvre François. Ma seule langue étrangère, c'est le patois. C'est tant pis pour moi, peut-être si j'essaye avec ça. Voulez-vous coucher avec moi? I don't speak English. I'm sorry.
Quiche, I don't speak English. Les yeux de la tête sur RFI. Deux circonstances autour de la question pourquoi et comment passer la langue au microscope en votre compagnie. Étienne Klein, vous êtes physicien et philosophe et vous nous présentez un nouveau petit bijou des éditions Robert, coécrit avec des linguistes. 150 drôles d'expressions pour ramener sa science, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Mais la science, cher Étienne Klein, elle a quand même plutôt tendance à infuser en anglais aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que la plupart des articles scientifiques sont écrits en anglais. Ça ne veut pas dire que les mots soient exclusivement anglais.
Mm-hmm. Mais... Vous pensez en français et vous écrivez ensuite vos articles scientifiques
oui,
en
mais,
anglais. Comment ça
fait,
se passe
tout, ça on peut écrire la science dans toutes les langues. Mm-hmm. Et les publications en général se font en anglais parce qu'une traduction est faite. Mais ça veut dire qu'on peut traduire la langue dans toutes les sciences. Il n'y a pas une science...
On peut traduire la langue dans toutes les sciences, la science dans toutes les langues, mais ça marcherait dans les deux sens.
Ça pourrait presque marcher dans les deux sens, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut traduire la science dans toutes les langues, même si la tendance, pour être lue par le plus grand nombre, consiste à publier en anglais.
Et justement, ça pose question hein, autour de la question quelle langue passer au microscope ? Parce que pour ramener sa science, justement, pour la développer, ça pose question dans nos nombreux endroits du globe. Je propose, Étienne Klein, d'écouter un nouvel éclairage vu d'ailleurs. Alors cette fois-ci, c'est vu de New York, mais par un brillant chercheur en biologie moléculaire qui est né à Lomé, au Togo. Rafiu Agoro, il est membre de l'Académie des sciences de New York. Il mène ses recherches à l'Université de médecine de l'Indiana, après avoir étudié d'abord au Togo, ensuite en Algérie et ensuite en France. Il milite, on pourrait dire, au sein d'une plateforme de scientifiques issus de la diaspora africaine pour l'enseignement de la science à l'école, dans les langues locales et notamment dans les langues vernaculaires du continent. Je l'avais interrogé, c'était en 2019, hein, à la suite d'un article remarquable publié en anglais dans la revue Scientific African, un plaidoyer pour l'enseignement des sciences à l'école dans les langues parlées par les élèves. Let's teach our children science in their own language. Pourquoi et comment? On écoute Rafiu Agoro et vous réagirez ensuite, Étienne Klein.
Je pense que c'est important que nous puissions découvrir ou bien goûter le plaisir de partager les connaissances en langue africaine aux Africains en Afrique. Parce que je pense que partager la science dans les langues vernaculaires, c'est un stimulus pour créer de la confiance intellectuelle. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas faire la science dans d'autres langues étrangères, mais je pense que c'est très très important de partager aussi les connaissances en langue africaine. Disons, la langue de science dans laquelle j'ai eu mon parcours quand j'avais 15 ans, c'était le français. J'aurais simplement aimé que je reçoive l'information scientifique aussi dans la langue locale, ce qui va me permettre de partager l'information avec ma mère, mon père, mes cousins. Ici, il y a quelque chose de très important ici, ils appellent ça « science communication », comment faire communiquer la science à la société. Donc je pense que c'est très important de partager aussi les connaissances scientifiques dans les langues africaines. Mon enseignant doit enseigner en français et les bouquins qu'il utilise, ce sont des bouquins qui sont en français. Donc je comprends que ce n'est pas aussi facile pour lui, mais j'aurais aimé qu'on fasse un peu plus d'efforts pour le partage des connaissances aussi en langue africaine.
Et vous proposez du coup un véritable plan hein, pour que sur les prochaines générations, on puisse faire passer au moins les bases de la science, faire un véritable dictionnaire, enfin une traduction, une réflexion là-dessus. Comment faire passer les bases de la science dans la langue qu'on utilise tous les jours hein.
Oui, justement, parce que je pense que... C'est un projet colossal sur plusieurs générations. Il faut penser que nous n'allons pas voir le résultat nous-mêmes. Mais au moins, si nous nous mettons en place les bases, ça veut dire qu'on a initié quelque chose, on a primé quelque chose. Comme ça, les prochaines générations vont prendre le relais. Et comme ça, d'ici deux générations, trois générations, on peut assister à une émergence du partage de connaissances en langue africaine, ce qui va construire une confiance intellectuelle qui est très importante. Si vous prenez par exemple la Corée du Sud, ils enseignent en coréen, mais en même temps, ils apprennent aussi dans d'autres langues. Donc, enseigner dans une langue locale n'empêche pas d'apprendre d'autres langues.
Vous en pensez quoi, Étienne Klein ?
Écoutez, je suis très sensible à cet argument. Mm-hmm. Je le trouve très puissant. Parce que d'abord, il n'y a pas une langue spécifique qui dirait mieux la science que les autres. Mmh. Et d'autre part, la science, si je parle de la physique par exemple, oui. Elle apparaît toujours très étrange. On a l'impression qu'elle vient d'un autre monde. Mmh. Et donc si elle est dite dans une langue étrangère à sa langue maternelle, elle sera victime, entre guillemets, d'une double étrangeté. L'étrangeté de la physique plus l'étrangeté du langage dans lequel on enseigne.
C'est encore plus loin, encore plus loin.
Le français ne dit pas plus la langue que d'autres langues. Il faut travailler sa propre langue pour qu'elle devienne capable de dire la science. Et ça peut se faire dans toutes les langues. Il n'y a pas une langue qui dirait mieux spontanément ce qu'on a découvert dans la science moderne. Et donc, je pense que c'est très, très important de parler notamment aux enfants de science dans leur langue, dans celle qu'ils parlent. Et ça sera d'ailleurs ensuite un vecteur et même un tremplin pour qu'ils apprennent ensuite des langues étrangères.
Ah oui, ça peut pousser dans ce sens-là aussi.
Plutôt que de dire vous
devez apprendre obligé d'apprendre le français ou l'anglais.
Pour ensuite avoir accès à la science, c'est beaucoup trop compliqué. Ça peut être, j'imagine, dans beaucoup de situations, beaucoup trop dissuasif.
Donc ça, c'est vraiment une étape majeure. On a aussi un autre de nos auditeurs fidèles, hein, Prudence Aïvi à Cotonou au Bénin, qui est un étudiant, qui a été un des gagnants de lunettes astronomiques, et qui du coup vous pose une question. Finalement, est-ce qu'on devrait aussi enseigner l'histoire des sciences? Est-ce que ça pourrait contribuer à faire aimer et à développer les sciences chez les enfants et chez les autres?
Alors, c'est une très bonne question, mais qui est capable de raconter l'histoire des sciences dans sa globalité? Même si vous prenez une simple discipline scientifique, une seule, par exemple la physique, qui est capable de raconter toute l'histoire de la physique? Personne. Et donc je pense que ce qu'il faudrait faire, je l'ai proposé en d'autres lieux, c'est d'enseigner chaque année, à tous les niveaux scolaires, depuis la maternelle jusqu'au troisième cycle d'université, l'histoire précise, complète, d'une découverte scientifique. Comment est-ce qu'on a su ce qu'on sait? Par exemple, nous savons tous que la Terre est ronde, elle n'est pas plate, mais comment est-ce qu'on l'a su dans l'histoire des idées et comment est-ce qu'on a eu la preuve qu'elle l'était?
Le cheminement.
Ouais, le cheminement, quelles ont été les étapes cruciales, quels étaient les arguments de ceux qui pensaient qu'elle n'est pas plate, quels étaient les arguments de ceux qui pensaient qu'elle est ronde, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'idée que la Terre est ronde s'est imposée à tous les esprits. Autrement dit, on a obtenu une connaissance qui a transcendé les croyances. Et on doit raconter l'histoire vraie, pas la légende.
Il s'en va pour qu'au fond, chacun puisse refaire ce cheminement-là.
Au moins sur un exemple. Et qu'on voit sur un exemple donné comment la connaissance scientifique s'est construite dans l'histoire.
Et s'est construite à partir de doutes, à partir d'erreurs. Mais...
Voilà, comment est-ce qu'on a su que la Terre est ronde? Comment est-ce qu'on a su que l'atome existe? Comment est-ce qu'on a découvert que l'univers observable est en expansion, etc.
Vous avez aussi beaucoup, beaucoup réfléchi et travaillé sur le temps en tant que physicien, en tant que philosophe. Vous n'êtes pas linguiste, mais aussi chercher des mots pour le dire. Alors le temps, vous étiez fâché contre des expressions « tuer le temps, n'a rien de temps, rattraper le temps perdu ». Tout ça pour le physicien que vous êtes, surtout qu'aujourd'hui en physique, au secours, mais le temps n'existe pas vraiment, même si pour nous humains, il existe bien. Comment est-ce qu'on fait justement pour faire passer ce genre de notion d'avancée, alors pour le coup totalement contre-intuitive, et qui avance en même temps que nous? Enfin, je veux dire, vous physiciens, vous travaillez là-dessus.
Eh bien, ça veut dire être en lutte avec la langue, comme disait le philosophe Wittgenstein. Parce que la langue n'a pas attendu la science moderne, pour dire le temps. Donc il y a des expressions qui sont très anciennes, le temps passe, quand le temps s'arrête, plus rien n'existe, où tout se passe comme si, lorsque le mouvement, il n'y a plus de mouvement, comme si le temps s'arrêtait, etc. Et ces expressions, elles se sont enquistées dans le langage, et elles charrient avec elles une sorte de métaphysique du langage quotidien. C'est-à-dire que notre façon de dire le temps détermine notre façon de le penser.
Et or, on le pense...
Et si on le dit mal,
on le pense
mal. Il y a un risque qu'on le pense mal. Par exemple, quand on compare le temps à un fleuve, c'est ce qu'on continue de faire en disant que le temps coule, le temps s'écoule. Mais vous voyez bien que pour dire l'écoulement d'un fleuve, il faut imaginer une rive, un lit du fleuve dans lequel le fleuve s'écoule. Si la rive coulait avec le fleuve, on ne dirait pas que le fleuve coule. Autrement dit, pour dire un écoulement, pour dire l'écoulement de quelque chose, il faut imaginer une autre chose qui ne s'écoule pas, dans laquelle cette chose s'écoule. Autrement dit, pour penser l'écoulement, il faut penser le non-écoulement. Si vous appliquez ce raisonnement au temps même, en disant « le temps s'écoule », arrive immédiatement la question « dans quoi s'écoule-t-il » Et donc, penser le temps en termes d'écoulement oblige à penser le hors-temps ou le non-temps.
Et oblige à penser que le temps pourrait ne pas exister et oblige à penser le temps avec l'espace aussi.
Voilà. Et en fait, si on a l'impression de se comprendre lorsque nous prononçons des phrases qui contiennent le mot « temps », c'est tout simplement parce que nous parlons vite. Autrement dit,
on prend pas le temps.
Non, c'est le flux verbal dans lequel on insère le mot temps qui détermine le sens qu'a dans cette phrase le mot temps. Par exemple, si je dis je n'ai pas le temps, vous me comprenez. Mais si je m'arrête, si j'extrais le mot temps du flux verbal dans lequel je l'ai inséré, je le sors de son contexte et je regarde le temps là. Je le sors, le temps, c'est un substantif. Et je me demande, mais ce temps là, il est fait de quelle substance ? Est-ce qu'il dépend de la conscience? Est-ce qu'il n'en dépend pas? Est-ce que c'est une entité physique? Est-ce que c'est une production de la conscience? Bref, toutes les questions qui sont un peu mises sous le tapis quand on parle apparaissent au grand jour et deviennent des énigmes.
Et d'où l'intérêt de ces énigmes aussi. Parce que dans ces énigmes, on se pose des questions et on voit bien qu'on n'a pas tout compris et que la manière dont on parle n'est pas toujours juste.
Absolument. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter sur les mots. Il faut s'arrêter sur les expressions. De temps en temps, pas tout le temps, évidemment, sinon on devient fou. Mais c'est ce qu'on a fait avec mes collègues, enfin mes camarades, moi je ne suis pas linguiste, mais avec mes camarades linguistes, on s'est arrêté sur les expressions. Les linguistes ont regardé l'histoire de ces expressions, comment elles sont apparues, dans quel contexte, et moi j'ai essayé de dire en quoi elles disent ou ne disent pas ce que la science dit.
Par exemple, la nature a horreur du vide, tiens donc.
Mais ça c'est une phrase qu'on continue de prononcer quand quelqu'un est... démissionnaires du gouvernement ont dit la nature hors du vide, donc vite on va trouver un remplaçant. Et c'est une phrase qui a servi pendant très longtemps d'argument physique. Par exemple, quand vous aspirez dans une paille trempée dans un verre de jus d'orange, bah vous voyez que le liquide monte, le jus d'orange monte dans la paille. Contrairement à ce que réclamerait la gravitation, qui demande que le liquide reste au fond du verre. Comment est-ce qu'on expliquait ça avant le XVIIe siècle ?
La nature a horreur du vide.
Donc, si j'aspire dans la paille, je vais, si je continue, créer du vide dans la paille. Mais comme la nature a horreur du vide, elle va demander au jus d'orange de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide dont elle a horreur se manifeste. Et donc, on considérait que l'horreur que la nature a pour le vide est une sorte d'antidépresseur. Dès qu'on crée une dépression, la nature va pousser toute la matière environnante, qu'elle soit liquide, gazeuse ou solide, elle va l'obliger à coloniser ce volume d'espace qui pourrait être colonisé par le vide. Et on s'est rendu compte que, grâce à Galilée et à quelques autres, Blaise Pascal, c'est toute une histoire passionnante qu'on a appelée la querelle du vide au XVIIe siècle. On s'est rendu compte qu'en fait, quand on aspire dans le jus d'orange, on diminue la pression à l'intérieur de la paille, mais qu'il y a la pression atmosphérique qui appuie sur le liquide, sur la surface du liquide. Et c'est cette différence de pression entre celle qui se trouve dans la paille et celle qui est à l'extérieur qui va provoquer la montée du jus d'orange, poussée par une force qui, paradoxalement, va de haut en bas.
Voilà,
donc, c'est une sorte d'inversion complète de la façon de comprendre. Mais l'expression « la nature hors du vide » continue d'irriguer la langue, d'être prononcée quotidiennement, sans que on ait remis en cause la signification et le pouvoir d'explication qu'elle peut avoir.
Et au fait, Étienne Klein, tiens, un trou noir est-il vraiment noir? Cette fois-ci, c'est une autre chercheuse du continent, Mam Pendamba, professeure en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et rédactrice en chef d'un super programme de promotion de la science et des scientifiques africains qui vous interroge sur votre goût, enfin celui des physiciens en général, pour le noir.
Pourquoi le noir de matière noire? Pourquoi une chose qu'on ne voit pas, on l'appelle noire? Voilà, pourquoi les chercheurs ici ont eu ce consensus sur la couleur noire? Parce que moi, j'ai l'impression que si c'est 90 ou 95% de la matière qui est contenue dans l'univers, ben, si c'était noir, on le verrait. Le noir, ça se voit, je veux dire. Je vois bien l'écran qui est noir. Et c'est quelque chose qui n'est pas visible. Quelle couleur ça a?
Quelle couleur à l'invisible? Magnifique question.
Et c'est vrai que les physiciens, ils abusent du noir.
Ah oui, hein.
Ils parlent de matière noire, d'énergie noire, de corps noir, de trou noir, etc. Et le sens du mot noir dans ces différentes expressions n'est pas forcément le même.
En plus.
Par exemple, un trou noir, il a été appelé ainsi parce qu'un trou noir ne rayonne pas, il n'émet pas de lumière. Mais les travaux de Stephen Hawking, ce grand physicien que tout le monde connaît, ont montré, en tout cas c'est une hypothèse qui n'a jamais été directement vérifiée, qu'en fait les trous noirs s'évaporent en émettant du rayonnement. Donc en fait ils sont gris sur les bords.
Les trous noirs sont gris sur les bords.
Ils émettent un peu de rayonnement qui n'a jamais été directement détecté, mais beaucoup de physiciens pensent que ce rayonnement existe réellement, mais il n'a pas pu être observé. La matière noire, on l'a appelée pendant longtemps la matière sombre ou la matière cachée. En fait, c'est une matière qu'on ne voit pas, elle n'est pas couplée à l'électromagnétisme, elle n'émet pas de lumière, mais elle semble agir gravitationnellement sur la dynamique des galaxies. Donc on dit, il y a une matière qui n'émet pas de lumière, mais qui agit gravitationnellement sur la dynamique des galaxies. Et on a longtemps pensé, depuis les années 1930, que cette matière, c'était de la matière ordinaire, mais tellement froide qu'elle ne rayonne pas. Ou bien que c'était des objets, des étoiles avortées, des choses comme ça. Et puis depuis quelque temps, on a compris que si cette matière existe, ce qui n'est pas prouvé, alors elle est constituée de particules que nous ne connaissons pas. Et là, on a changé de nom. Elle est devenue non plus la... Elle était la matière cachée, elle est devenue la matière noire. Au sens où ça devient une énigme. Ça ne veut pas dire qu'elle est noire. Ça veut dire qu'en fait, elle est transparente. C'est une matière transparente. Mais noire, ça veut dire... Nous sommes, nous, dans le noir quand il s'agit de dire de quoi elle s'agit.
C'est notre ignorance, finalement. Oui, quand on dit que quelque chose est noir, c'est notre ignorance.
C'est la marque du fait qu'une question est posée.
Ah, voilà. Donc ça reste noir.
Pareil pour l'énergie noire. Elle n'est pas noire.
Elle n'est pas noire, l'énergie noire. Elle est quoi? Elle serait, pareil, transparente?
Non, on ne sait pas ce que c'est, donc je ne peux pas vous dire. En tout cas, elle n'est pas visible et on suppose qu'elle existe si on fait confiance aux équations d'Einstein pour décrire la gravitation. C'est-à-dire que l'univers semble... Enfin, on est sûr qu'il est en expansion. Et cette expansion semble s'accélérer sous l'effet d'une énergie noire. Noire parce qu'on en ignore la nature. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des hypothèses.
Sur lesquelles vous travaillez notamment. Autre question à nos auditeurs sur les réseaux sociaux. C'est Fidi Madagascar, enfin Antananarive. Et une question un peu d'ordre étymologique. Mais finalement, il se demande si toutes ces expressions... sont censés finalement correspondre vraiment à la réalité, visible, sensible, ou est-ce que c'est pas plutôt parfois de l'imaginaire, de la métaphore?
C'est des métaphores, même les physiciens, ils jouent des métaphores. On dit des quarks, vous savez, les quarks, c'est des particules élémentaires qui constituent les protons, les neutrons dans les noyaux des atomes, et bien on leur attribue une couleur. Bleu, rouge, vert, ça veut pas dire qu'ils sont colorés de cette façon, c'est juste une phase, là c'est l'inverse, c'est une façon d'utiliser ce que dit la langue pour le projeter dans le vocabulaire nouveau de la physique.
Pour le représenter d'une certaine manière. Au fond, nous les hommes et vous les scientifiques, nous les hommes et les femmes et vous les chercheurs, on n'a pas toujours des mots pour dire, il faut qu'on se représente. Et
oui, c'est pour les rendre familiers.
C'est ça.
Noir, c'est pour les rendre mystérieux. Et quand on donne des couleurs explicites, comme celles que j'ai citées, c'est au contraire pour faire comme s'ils étaient des objets familiers.
Il faudrait inventer des mots, Étienne Klein, quand on avance comme ça. Est-ce qu'on pourrait, alors peut-être pas des mots, mais des expressions, des manières de dire, réinventer?
Moi, je pense qu'il faut inventer une sorte de poésie scientifique. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire, en fait, jouer sérieusement avec les mots. Interroger ces expressions qu'on prononce sans vraiment y réfléchir. S'arrêter sur elles.
La quadrature du cercle, tiens donc,
ah tiens, ça c'est pas mal. Mais ça c'est un problème passionnant, parce que chez les anciens, carrer un cercle, mm-hmm. c'est tracer, dessiner un cercle qui a la même aire qu'un carré. Non, plutôt c'est dessiner un carré qui a la même aire qu'un cercle.
Un cercle, d'accord.
Et ça c'est évidemment facile, mm-hmm. en principe. Mais les anciens se donnaient une contrainte. Cette contrainte, c'est qu'on devait pouvoir le faire qu'en utilisant une règle et un compas. Mmh. Et il a fallu 3000 ans de recherche pour démontrer que c'était impossible. Et ça a été démontré simplement en 1800, alors il faut que je révise, en 1800...
Quadrature du cercle.
En 1882, oui. par un mathématicien allemand qui s'appelle Ferdinand von Lindemann, qui a démontré que le nombre pi, le fameux nombre pi, est un nombre transcendant. Et c'est parce que pi est transcendant que la quadrature du cercle est impossible.
On est dans les mots transcendants, ouais, pi est transcendant.
Ça veut dire que le nombre pi ne peut pas s'écrire. Il n'existe aucun polynôme à coefficient rationnel, c'est-à-dire s'écrivant comme le quotient de deux nombres entiers, positifs ou négatifs, dont pi soit une racine.
Donc pi est transcendant.
C'est ça que ça veut dire transcendant, et ça a été démontré seulement à la fin du 19e siècle, après 3000 ans de recherche. Ça veut dire que quand on dit c'est la quadrature du cercle, ça veut dire que c'est un problème dont on sait à l'avance qu'il n'a pas de solution. Et donc c'est pas la peine de perdre son temps.
Avec la quadrature du cercle, vous avez le goût du vrai, toujours, pour dire le vrai, Étienne Klein. Vous avez aussi les oreilles bien affûtées et l'esprit... Si. Toujours rock'n'roll. Vous n'avez pas choisi d'écouter Noir, c'est noir, hein, mais plutôt de rendre hommage au génial batteur de votre groupe de rock préféré, le regretté Charlie Watts, mort en août dernier, après 80 ans de bons et loyaux services sur Terre et plus de 60 ans avec les Stones.
Charlie, c'est l'anagramme de chialer.
Oh, bah voilà. Time's wait for no one. C'est tout de suite sur RFI. Wait for no one. Les Stones sur RFI en hommage à Charlie Watts, le batteur, votre batteur préféré, Étienne Klein.
Oui, j'étais très triste en apprenant cette nouvelle. C'était pas du tout un Stones au sens où il avait un mode de vie complètement différent de celui
de
ses collègues.
Le plus sobre de tous.
Mais il fait l'alchimie des Stones.
Pourquoi ?
Parce qu'il était l'antiparticule de Mick Jagger et de Keith Richards. Et ça, c'est... Une antiparticule dans des particules composées de quarks et d'antiquarks, par exemple, c'est très important pour la cohésion.
Charlie Watts, l'antiparticule des Stones. Autour de la question, comment mettre la langue au microscope ? Nous continuons avec vous, Étienne Klein, de feuilleter ces 150 expressions pour ramener sa science, éditées par le Robert, en nous arrêtant sur une expression qui nous donne du fil à retordre. Extrait de La puce à l'oreille, jolie pastille linguistique de Lucie Bouteloup sur RFI, en compagnie d'enfants d'une classe de CE2 CM1 à Bagnolet, la classe de Monsieur Riquier, qui s'interroge à voix haute sur cette expression « donner du fil à retordre à quelqu'un et ça vaut le détour ».
Quand quelqu'un a beaucoup de travail, bah quelqu'un fait une bêtise derrière son dos, et bah ça lui donne du fil à retordre parce qu'il a encore plus de travail à faire que ce qu'il devait avoir à faire.
C'est quelqu'un qui est maudit.
Quand quelqu'un est en difficulté, bah il prend une corde et il l'aide avec la corde.
Du fil à retordre, ça veut dire quelqu'un fait quelque chose de pas bien et la personne elle doit s'occuper de ce qu'il a fait et du coup ça lui fait perdre du temps. Ça veut dire... Quelqu'un travaille et après il y a une personne qui vient l'aider.
Du fil à retordre, c'est quand quelqu'un a préparé quelque chose et par exemple quelqu'un vient se mêler de ses affaires, du coup il casse tout et la personne a tordu un fil, l'autre fait une bêtise, du coup ça le détord et du coup il doit le retordre.
J'ai oublié quelque chose, j'ai dû avoir un fil à retordre.
Pour moi, c'est quelqu'un qui fait des farces et qui est méchant et qui veut se venger de quelqu'un.
C'est donner plus de mal à faire quelque chose à quelqu'un.
Un mécanicien qui est en train de réparer quelque chose et une personne qui prend un fil à retordre et il tord l'objet.
Et oui, en voilà du fil à retordre dans La puce à l'oreille de Lucie Bouteloup, diffusée sur RFI. Ça vous inspire quoi?
C'est magnifique, hein, ils tournent autour de cette expression et en trouvent le véritable sens. Ils oublient quand même de préciser que donner du fil à retordre, c'est ce que m'ont appris mes collègues linguistes. Originellement, ça voulait dire se prostituer, pour des raisons qui m'échappent. Mais donner du fil à retordre, c'est donner un surcroît de travail ou des ennuis à quelqu'un.
Et pour qui a bien écouté la linguiste Laetitia Tabar, ça vient aussi des métiers à tisser, de ce fil à retordre. Alors, je ne sais pas si ça vous donne du fil à retordre, mon cher Étienne Klein, en ce moment, mais je pense que l'apesanteur sur laquelle vous travaillez, de la juste façon de dire l'apesanteur, vous faites partie d'un programme de résidence de recherche en apesanteur.
En impesanteur.
En impesanteur, oui, ça y est.
Oh non, alors comment il faut le dire. Quand vous dites l'apesanteur, selon que vous mettez un seul mot ou deux mots, c'est pas la même chose.
Surtout en radio.
Donc on dit plutôt impesanteur. En fait, c'est l'apesanteur en un seul mot. L'absence de pesanteur.
C'est l'impesanteur.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, de pouvoir faire ce qu'on appelle des vols 0G, des vols paraboliques dans un Airbus spécial. Donc on grimpe avec l'avion, il coupe les moteurs et on tombe en chute libre.
Formidable.
Et ce qu'a montré Einstein, c'est plutôt, il a eu l'idée, il a compris plutôt, c'est pas une invention, c'est le fait qu'il a compris que dès lors que, et c'est Galilée qui l'a montré, tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, quand vous êtes en chute libre, les objets qui tombent avec vous tombent à la même vitesse que vous. Donc par exemple, si vous prenez votre téléphone, vous le lâchez, bah, vous le voyez tomber avec vous, donc par rapport à vous, il est immobile. Donc il vous semble être en impesanteur, alors même que vous êtes en train de tomber. Et donc, ça a provoqué chez Einstein une très grande émotion, c'est ce qu'il dit lui-même. Il dit même que ça a été l'idée la plus heureuse de sa vie.
La plus heureuse de sa vie.
Oui, ça veut dire qu'en 1907, il a eu cette idée. C'est-à-dire que quand on tombe sous l'effet des gravitations, tout se passe comme s'il n'y avait plus de gravitation. Donc l'effet produit par la gravitation annule la cause qui vous fait tomber. Et ça, ça l'a amené à ce qu'il a appelé le principe d'équivalence entre l'accélération et la gravitation, et qui va le conduire, 8 ans plus tard, en 1915, à formuler une nouvelle façon de comprendre la gravitation, qui s'appelle la relativité générale, qui montre que la gravitation n'est plus une force, comme on l'avait cru avec Newton, qui s'exerce au travers de l'espace, c'est une déformation de l'espace-temps.
Et vous allez expérimenter ça au cours de ce vol en impesanteur?
C'est une trentaine de chutes qui durent chacune 20 secondes. J'espère ne pas être malade. Mais ce que je voudrais voir, c'est, certes, quand on est en chute libre, on ne sent pas son poids, mais je voudrais comprendre comment on sent son corps. Autrement dit, quel rôle joue la gravitation dans la perception que nous avons de notre propre corps? Là, il n'y a plus de gravitation pendant 20 secondes. Est-ce que le rapport à son propre corps est modifié? Quand je regarde ma main, par exemple, là dans ce studio, je sens la tension musculaire de mon bras qui me connecte à ma main. Donc le sentiment d'appartenance de ma main à mon corps est assez direct. Mais s'il n'y a plus de pesanteur, est-ce que j'aurai le même sentiment d'appartenance de ma main à mon corps que lorsque je suis dans un champ de gravitation.
Et cette expérience-là, vous voulez la faire, Étienne Klein, en tant que physicien, en tant que philosophe? Vous pourriez aussi demander à Thomas Pesquet ou à d'autres astronautes. C'est
quelque chose... en tant qu'amoureux du langage. Ah. Tout simplement parce que quand Einstein a eu cette idée, il est revenu sur cette situation, sur les circonstances dans lesquelles il a eu cette idée. Et il a dit à un de ses biographes en 1954, donc peu de temps avant de mourir, il a dit « c'était une pensée musculaire ».
Une pensée musculaire. Ça veut dire,
je mets mon corps en situation, je l'imagine dans telle et telle situation, et j'essaie de voir ce que seraient mes réactions corporelles dans la situation que j'imagine, si les lois physiques telles que je les connais étaient actives. Et il raconte qu'il a eu beaucoup de mal à passer de cette image mentale à des phrases, à des équations qui traduisent ce qu'il avait imaginé de cette façon. Et donc, moi, mon projet, c'est tout simplement de mettre des mots derrière, en faisant l'expérience réellement, derrière ce que Einstein avait conçu grâce à l'expérience de pensée, simplement par des images mentales. Donc il s'agit de verbaliser, de baliser par le verbe ce que Einstein avait intuité grâce à sa seule pensée.
De mettre des mots, notamment sur cette expression, on va peut-être terminer avec celle-là, tout est relatif, Étienne Klein ?
Ben non. Parce que si tout... Non, c'est tout bête, si tout était relatif, la phrase qui dit que tout est relatif serait relative. Mais souvent, c'est une phrase par laquelle on résume la théorie d'Einstein, qui est la théorie de la relativité. Et Einstein lui-même a été conscient, il le dit dans des textes de 1933, il a été conscient que ça a été mal nommé. Parce qu'on s'est servi de cette théorie pour justifier scientifiquement un relativisme philosophique. En fait, non, sa théorie, c'est une théorie de l'absolu. C'est une théorie qui dit ce qui ne change pas quand on change de référentiel. Et donc, c'est une théorie qui dit ce qui est absolu. Par exemple, la vitesse de la lumière est absolue. Elle est la même dans tous les référentiels. Et ce qui n'est pas absolu, ce sont les durées et les longueurs qui, elles, dépendent du référentiel, de sa vitesse, de la vitesse qu'a le référentiel depuis lequel on fait la mesure par rapport au phénomène dont on mesure la durée ou la longueur. Et donc, c'est pas du tout... cette phrase « tout est relatif »,
il faudrait la remplacer par quoi, vous qui
êtes... Il faudrait dire, il y a des choses qui sont relatives et il y a de l'absolu en ce bas monde. Voilà, il faut mettre les deux en même temps.
Les deux en même temps, comme toujours, il faut mettre les deux en même temps. Merci infiniment, Étienne Klein, de nous avoir fait partager le fait qu'il y a des choses qui sont relatives et d'autres qui sont absolues en ce monde. Je renvoie évidemment sur tous vos ouvrages. Allez, on peut citer le plus récent, Le goût du vrai, mais aussi Idées de génie. On peut aussi vous retrouver sur une autre longueur d'onde que la nôtre pour vos conversations scientifiques sur France Culture. Et puis bien sûr, pour tous les amoureux des sciences et des mots, ce nouvel ouvrage, 150 drôles d'expressions pour ramener sa science, paru aux éditions du Robert, coécrit avec des linguistes. Ouvrage dont nous avons, je vous le rappelle, un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur votre page Facebook. Merci Étienne Klein. Et c'est quand votre voyage en impesanteur?
Le 30 septembre.
Eh bien, bon voyage, mais je ne sais pas.
Je suis prêt.
Parfait. Je ne sais pas ce que vous faites avant, donc ce week-end ou d'ici la fin de semaine. Je vous invite, ainsi que tous nos auditeurs qui sont dans l'Hexagone, à vous rendre à Marseille pour la deuxième édition du festival Allez Savoir de sciences humaines et sociales autour du thème inspirant Tout migre, 4 jours de table ronde, de débats, de rencontres, de paroles et de musique pour porter un autre regard sur les migrations au-delà des fantasmes et des idées reçues. Autour de cette thématique, nous y serons bien sûr autour de la question avec Hugo Violas, comment mieux comprendre les migrations en compagnie du démographe François Errant et de chercheuses, géographes, anthropologues pour une approche sensible au-delà des chiffres au plus près de la réalité des migrants, mais aussi de leur parcours singulier. Vous pouvez suivre sur la chaîne YouTube du festival Allez Savoir cette table ronde, si vous le voulez. Et on vous donne rendez-vous lundi, chers amis auditeurs, autour de la question « Pourquoi tout migre et comment mieux comprendre les migrations ?» Merci à Hugo Violas de l'autre côté de la vitre. Merci à Raphaël Plouskva en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI. C'est bientôt l'heure de retrouver les informations.